Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Léa Baron. Cette semaine, Escale s'intéresse à la 20e journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, une conférence intitulée « 21e siècle, nouvelles frontières, nouvelles barrières » était organisée le 3 mai au siège des Nations Unies à New York. Lors de cette conférence, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, ont renouvelé leur engagement pris avec la haut-commissaire aux droits de l'homme, Navi Pillay. D'une seule voix, ils ont demandé au gouvernement de joindre leurs forces à celles de l'ONU pour garantir et promouvoir la liberté d'expression dans la presse écrite et en ligne, ainsi que dans l'audiovisuel. Ainsi, les très hauts représentants de l'ONU appellent à prendre des mesures pour assurer la sécurité et l'intégrité physique des journalistes en ligne, dont le rôle a été mis en avant lors des récents soulèvements populaires, au Maghreb notamment. Comme on va l'entendre, Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, attache beaucoup d'importance à la protection des journalistes, utilisant ces nouveaux médias.
Aujourd'hui, nous fêtons la journée internationale de la liberté d'expression et des médias. Et c'était le message que les médias jouent un rôle extrêmement important dans chaque pays, dans le développement du processus démocratique, pour le même développement économique, social. C'est important. Nous voyons ce qui se passe au nord de l'Afrique, dans certains pays arabes. Toujours, je considère que la liberté d'expression, c'est un des piliers dans chaque société. Et c'est aujourd'hui, après 20 ans de la déclaration de Windhoek, qui a été adoptée par des journalistes, par des professionnels, où la liberté d'expression a été pas seulement extrêmement bien formulée, mais ancrée dans le développement de chaque pays. Je considère que partout dans le monde, les journalistes, la société civile, le gouvernement doivent se concentrer et doivent réfléchir sur comment avancer dans ce chemin.
En quoi l'ONU peut aider cette liberté d'expression à travers les nouveaux médias ?
Nous avons appelé pour que les mêmes règles, les mêmes libertés soient transmises aussi sur les soi-disant médias online, digital. Le problème aussi ici est que nous voyons un phénomène nouveau qui est le soi-disant journalisme civil. Ce ne sont pas exactement des professionnels. Et là, je crois qu'il faut réfléchir sur la liberté aussi, accès à l'information. Parce que parfois, ces gens-là ne sont pas défendus par des professionnels, par des associations. Ce sont des nouveaux défis, il faut réfléchir toujours.
Est-ce que la situation est plus mauvaise qu'il y a
20 ans ? Non, je ne dirais pas que la situation est trop mauvaise. Moi, je crois qu'il y a une connaissance, il y a une, je dirais, volonté politique dans beaucoup plus de pays. Regardez ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Là, nous travaillons beaucoup dans beaucoup de pays post-conflit, les autres pays. Il y a 15 ans, il n'y avait pas presque nulle part de législation sur les médias et sur le journalisme, la protection. Maintenant, plus de 20 pays africains ont adopté de telles législations qui déclarent la liberté, qui inscrivent la liberté d'expression dans leur constitution, législation. Alors, les choses avancent. Il y a plus des associations professionnelles, il y a, je dirais, plus de connaissances, plus de sensibilités là. Mais bien sûr, ce n'est pas un processus qui avance sans obstacle, sans défi. Dans certains pays, nous avons vu un recul. Alors, il faut, la liberté d'expression, à mon avis, immédiat, c'est pas quelque chose qui est réglé une fois pour jamais. Parce que nous voyons même dans les pays qui sont assez développés démocratiquement, là, toujours il y a certains défis, il faut continuer. Alors, ça exige, à mon avis, nos efforts et notre attention quotidienne.
Présent également dans ce panel, Abderrahim Foukara, le chef du bureau d'Al Jazeera à Washington. Lui aussi est confronté dans sa rédaction à l'utilisation des nouveaux médias et réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou YouTube qui délivrent des informations à diffuser avec précaution.
Il n'y a pas une déontologie très claire dans le domaine des nouveaux médias, c'est-à-dire à l'heure actuelle c'est toujours un mouvement presque populaire. Il y a des gens qui expriment des opinions sur des réalités telles qu'ils voient ces réalités. Et dans ce cadre-là, c'est politique, ça veut dire l'expression d'une certaine réalité, ça prend des perspectives très politiques parfois.
Comment vous, en tant que journaliste, vous gérez ça dans les rédactions ?
Alors pour nous, dans les médias comme la télévision, la radio, etc., surtout dans le domaine de la télévision, ils sont devenus incontournables. Bien sûr, il y a toujours une marge d'erreur, surtout quand on fait de la télévision en direct.
Mais est-ce que les journalistes aujourd'hui comptent pas trop justement sur ces nouveaux médias, ces réseaux sociaux, au lieu d'aller peut-être plus sur le terrain ?
Ça, c'est un danger, bien sûr. Le fait qu'il y ait des médias de ce genre, le fait qu'il y ait des médias qui nous apprennent ou qui essaient de nous apprendre des choses sur certaines réalités politiques, ça ne veut pas dire que nous, comme journalistes, dans le sens conventionnel du terme, devrait se contenter de ce qu'on reçoit des nouveaux médias. Les correspondants de la télévision, de la radio, de la presse, ils doivent toujours travailler pour revoir et vérifier la réalité qu'on trouve maintenant d'une façon plus régulière dans les nouveaux médias.
Et vous, Al Jazeera, comment vous travaillez ? Est-ce que vous avez vos propres contacts de blogueurs, par exemple ?
On a des contacts avec des blogueurs un peu partout dans la région. On a même une salle de rédaction où on reçoit les YouTube, les images d'un peu partout. Et puis on décide si on va les utiliser ou pas. Les nouveaux médias sont presque devenus une partie intégrante de notre travail.
Je voulais savoir, avec tous les événements qu'il y a eu au Moyen-Orient ou en Afrique aussi bien les révolutions qui ont eu cours, est-ce que vous pensez que sans les nouveaux médias, toutes ces révolutions n'auraient pas eu une telle ampleur ?
Mais écoutez, premièrement, je ne suis pas toujours sûr concernant l'appellation. Je ne sais pas si c'est des révolutions ou c'est quelque chose d'autre. Bien sûr, il y a un désir de changement, c'est clair. Et il y a des facteurs qui ont contribué à ce désir de changement dans la région. Des facteurs politiques, des facteurs économiques, des facteurs sociaux, etc. Et bon, bien sûr, les nouveaux médias ont aussi contribué dans le sens qu'ils ont permis aux gens de communiquer entre eux d'une façon instantanée, si vous voulez. Et bien sûr, cela a créé une dynamique qui a donné beaucoup d'énergie aux manifestations qu'on a vues à travers toute la région, que ce soit en Tunisie, en Égypte, actuellement en Syrie, au Yémen, etc.
Et on termine ce flash avec ce triste décompte. Cela fait 219 jours maintenant que nos confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, ainsi que leurs trois accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan.
Outre ces préoccupations de l'ONU face à l'émergence de nouveaux médias, cette conférence était aussi l'occasion de rendre hommage à tous les journalistes tués dans le monde. Reporters sans frontières déplore d'ailleurs la mort de 57 journalistes en 2010 et 147 emprisonnés.
Aujourd'hui, cela fait 497 jours qu'Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs trois accompagnateurs sont otages en Afghanistan. Une journée supplémentaire de détention également pour les six autres otages français enlevés en Somalie, au Niger et en Côte d'Ivoire.
Pour témoigner des perpétuelles violences dont sont victimes les journalistes dans le monde, l'ONU avait invité Thierry Taponnier, dont le frère Stéphane a été enlevé en décembre 2009 en Afghanistan avec Hervé Guéquière, tous deux journalistes à France Télévisions.
C'est un moment extrêmement important dans la mesure où, je me rappelle l'année dernière, c'était donc pour les 6 mois de leur détention, on avait beaucoup de mal à se faire entendre, beaucoup de mal à trouver un lieu pour faire une manifestation. On avait du mal à rassembler les médias. Ensuite, bon, petit à petit, tout le monde s'est mis. Là, dernièrement, c'est le Parlement européen donc, qui leur apportait leur soutien. Maintenant, c'est l'ONU, c'est magnifique. Et voilà, maintenant, on sait vraiment aujourd'hui la difficulté qu'être journaliste dans des lieux de conflit. Ce n'est pas uniquement parce que c'est Hervé Stéphane. Hervé Stéphane, malheureusement, sont prisonniers. Ça permet de parler d'eux aussi, mais ça parle aussi de tous les autres journalistes. Tout le monde se mobilise, mais de façon formelle, hein, pour la liberté de la presse, pour la liberté des journalistes, pour la liberté d'informer. Voilà, et l'ONU, voilà, quand l'ONU le fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on demande à tout le monde de respecter les journalistes, de les laisser aller sur les terrains, de leur essayer de distribuer l'information.
Vous pensez que les journalistes sont assez protégés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça a toujours été un métier dangereux. À partir du moment où on va dans un pays dangereux, ils ne seront pas plus protégés qu'avant, je pense, mais disons, peut-être on les respectera plus. Là, aujourd'hui, c'était un début, en espérant que ça aille plus loin maintenant, et que tous les gouvernements auront à l'écoute ce qu'on a dit aujourd'hui, ce qui s'est passé ici.
Michel Anglade est caméraman à France Télévisions. Il a travaillé pendant 10 ans avec Hervé Guéquières et est d'ailleurs membre du comité de soutien aux deux journalistes. Il était présent au siège de l'ONU, lui aussi a peur d'être enlevé.
On y pense toujours, d'autant que c'est un danger qui se précise de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de kidnapping, de prise d'otage, de maltraitance contre les journalistes. J'ai l'impression que notre métier devient de plus en plus difficile. J'y pense aussi parce que il se trouve qu'avec Hervé, une fois, nous avons vraiment frisé le kidnapping. On a été, enlevé, entre guillemets, seulement 24 heures par des Khmers rouges au Cambodge. J'ai été une autre fois confronté à la problématique de l'enlèvement. J'étais à Gaza et nous avons été braqués par des malfaiteurs. Et le preneur de son de l'équipe a été enlevé, lui, une dizaine de jours. Donc c'est quand même une question qui se pose aux équipes de télévision sur les terrains difficiles et en guerre en permanence.
Est-ce que ce type d'événement, ça change votre pratique du journalisme quand vous allez sur le terrain ?
Oui, on essaie le plus possible de sécuriser nos rencontres, nos trajets, nos déplacements. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile. C'est un danger sournois qu'on n'arrive pas véritablement à mesurer. Autant quand vous êtes sur une ligne de confrontation dans un pays en guerre, vous pouvez essayer de juger où se trouve en quelque sorte la ligne de démarcation, la ligne de front. Vous prenez votre propre décision. Est-ce que vous approchez plus ou moins près des combats ? Ça vous appartient. Le danger de l'enlèvement, il est sournois, il est imprévisible. Ça peut vous tomber dessus, j'ai envie de dire. Dès que vous posez le pied sur le tarmac de l'aéroport d'un pays en crise.
Sans nouvelles de son frère Stéphane, depuis décembre dernier, Thierry Taponnier continue la mobilisation pour que les deux journalistes ne tombent pas dans l'oubli. De son côté, le gouvernement français poursuit ses négociations en secret.
Nous, ce qu'on espère, ça pourrait donner un petit coup de pouce à leur libération, surtout. On n'a pas de preuve de vie depuis la dernière cassette qui était sortie au mois de décembre, je crois qu'il datait de novembre. Depuis, on n'a pas de nouvelles du tout, en fait. Vous savez, mon frère, c'est quelqu'un qui partait souvent dans les pays, voilà. Mais on n'a jamais mesuré, en fait, le risque qu'il prenait chaque fois qu'il partait, voilà. Et c'est un peu tard qu'on s'en aperçoit maintenant.
Comment vous avez appris la nouvelle qu'il était capturé ?
Je regardais un beau match de rugby, Montpellier, Stade français, Montpellier gagné, voilà. Et en plein milieu du match, j'ai appris qu'il était capturé. Ouais, il était libre. Ça fait un choc, bien évidemment, on ne sait pas trop quoi faire, quoi dire. C'est votre mère qui vous appelle en pleurs, donc c'est un peu difficile. Alors, ouais, c'est pas super. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là, on a la télévision, on achète des journaux. Chaque fois que le téléphone sonne, on fait un bon, quoi, voilà. Puis on attend toujours.
Cela fait 498 jours qu'Hervé Guéquières, Stéphane Taponnier et leurs trois accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Une journée supplémentaire de détention aussi pour les 7 autres otages français enlevés en Somalie, au Niger et en Côte d'Ivoire. Nous ne les oublions pas.
500 jours d'attente, 500 jours d'angoisse. Stéphane Taponnier et Hervé Guéquières sont toujours retenus en otage en Afghanistan avec leurs trois accompagnateurs.
L'attente est d'autant plus incertaine que les deux journalistes sont retenus en Afghanistan, où il est difficile pour l'instant de savoir si la mort d'Oussama Ben Laden pourrait avoir une quelconque incidence sur leur libération. Voilà, et c'est avec ce témoignage de Thierry Taponnier que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine à la 20e journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai dernier au siège des Nations Unies à New York. Un magazine présenté par Léa Baron avec l'aide de Jérôme Longuet, Florence Westgaard et Zach Pourrit. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires mais aussi le journal quotidien de la radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.